mercredi. Mercredi. Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas les anciens de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Salut à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Paula et Théo.
Salut.
Salut.
Salut à tous les deux. On va parler donc des cachalots, donc espèce de cétacé qui vit dans l'océan. On va en parler avec Paula et Théo. Et Théo, tu vas plutôt te pencher sur la partie jeux vidéo. Donc ça sera en deuxième partie d'émission.
Exactement.
Paula, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les baleines et les cétacés?
Alors, il n'y a pas de différence entre les baleines et les cétacés, parce que les baleines sont des cétacés. Par contre, un cachalot est aussi un cétacé. Ça ressemble un peu. C'est très grand, ça vit sous l'eau, c'est aussi un mammifère marin. Par contre, le cachalot a une très grosse tête, et puis il a des dents, contrairement aux baleines, qui ont des fanons, c'est des très longues sortes de dents qui filtrent l'eau. Et les baleines, eux, ils ont des dents sur la mâchoire inférieure.
D'accord, mais alors pourquoi on parle des cachalots aujourd'hui ?
Ben parce qu'on imagine souvent les cachalots comme des grosses bêtes, informes, effrayantes et même monstrueuses, mais grâce à des scientifiques comme l'océanologue et plongeur François Sarano, et grâce à son équipe et leur découverte, on voit soudain cet animal sous un nouvel angle, sous un nouveau point de vue, car c'est en fait un animal très intelligent, très sociable et d'une grande délicatesse.
D'accord, mais alors, si on rentre dans les détails, vraiment techniquement, à quoi ça ressemble un cachalot ?
Ben déjà, il faut essayer de s'imaginer leur taille et leur immensité, ce qui est un peu difficile de notre point de vue d'être humain. Le cachalot, il fait environ 10 à 12 mètres de long pour les femelles. Il pèse 15 tonnes et les mâles, qui sont beaucoup plus gros et lourds, ils peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres. C'est à peu près l'équivalent de 10 êtres humains qui seraient debout les uns sur les autres. Et ils peuvent peser jusqu'à 50 tonnes, c'est à peu près le poids de 40 voitures, donc c'est énorme. Ils se nourrissent principalement de calmars, et on ne dit pas calamars, on dit bien calmars, qui vivent dans les eaux très profondes, qu'on appelle également les abysses. Les femelles peuvent chasser très en profondeur, jusqu'à 1 voire 2 km sous le niveau de l'eau, c'est très profond, c'est l'équivalent de 6 tours Eiffel les unes sur les autres. Elles mettent à peu près 20 minutes à descendre jusque-là et elles peuvent rester très très longtemps sous l'eau sans respirer l'air nécessaire qu'il faut pour leurs poumons. Et on dit qu'elles sont en apnée.
Oui, donc au final, un cachalot, c'est comme nous, ça respire de l'air.
Oui, c'est un mammifère comme nous, les êtres humains. Et c'est un mammifère qui s'est adapté à la vie dans l'océan, mais il doit absolument remonter de temps en temps à la surface pour respirer, sinon il coule. Heureusement pour lui, le cachalot peut rester en apnée jusqu'à 1h30, c'est à peu près le temps d'un match de foot. En général, un être humain non entraîné comme toi, Théo ou moi, on peut tenir en apnée environ 30 secondes, mais pas plus.
Oh, je suis plutôt pas mal loin.
Le corps du cachalot, il est aussi adapté à une autre contrainte de l'océan, car quand ils descendent dans les abysses pour chasser, ils subissent une pression 200 fois supérieure à celle que l'on subit dans l'air. En fait, la pression, c'est la force qui s'appuie sur nous. Et pour donner un exemple, un ballon de basket au fond des abysses, il subirait une telle pression qu'il deviendrait petit comme une balle de golf. Donc pour descendre dans les abysses, les êtres humains, nous, on doit utiliser des appareils sous-marins très spécifiques. Il n'en existe que 6 disponibles dans le monde de ce type. Les cachalots, eux, ils ont un système sanguin très puissant qui est capable de résister à cette énorme pression.
D'accord, mais en fait, on peut voir qu'ils ont une tête énorme, en fait.
Oui, alors la tête du cachalot, elle fait à peu près un tiers de leur corps. C'est un peu comme si notre tête descendait jusqu'à notre poitrine. Donc, ils ont l'air un peu informe comme ça. Et à l'intérieur de ce crâne, ils ont une très grosse poche d'huile qu'ils peuvent refroidir et faire durcir pour descendre plus facilement sous l'eau. Et ils peuvent la réchauffer pour remonter à la surface, car peut-être que vous le savez déjà, mais l'huile est plus légère que l'eau.
Mais qu'est-ce qu'on entend un peu là ?
Alors, je t'explique. Dans les abysses, si profond au fond de l'eau, la lumière ne pénètre pas. c'est la nuit noire. Même les végétaux qui ont besoin de lumière pour vivre ne poussent pas. Les petits yeux du cachalot ne sont pas du tout adaptés pour y voir quelque chose. Ils utilisent donc l'écholocalisation. C'est ce qu'on entend là, des petits clics, une série de clics de ce genre, comme les chauves-souris ou les radars. C'est le même fonctionnement. Leur très grosse tête, elle va être super utile pour émettre ce genre de clics. Ils émettent un son très puissant, amplifié par ce gros crâne. Et c'est un des sons les plus puissants que peuvent émettre les mammifères. Ça s'entend à plusieurs kilomètres sous l'eau. Et en fait, les cachalots, ils réceptionnent l'écho de ce clic, comme lorsqu'on crie dans une montagne et qu'on entend « Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh ». Et du coup, grâce à cet écho, ils peuvent entendre, enfin, ils peuvent comprendre ce qui les entoure sans les voir. Ils peuvent voir les calmars sans les voir. Ils peuvent en évaluer la forme, la taille, la texture, la vitesse de déplacement. Et c'est très pratique pour chasser. Donc, ils voient un peu avec leurs oreilles.
Thank you.
Alors Paula, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial ces cachalots ?
Eh bien, grâce au travail des scientifiques comme François Sarano, on apprend qu'il faut complètement perdre nos repères d'êtres humains pour bien les comprendre et on découvre des choses extraordinaires. Ce n'est pas à nous, êtres humains, de les étudier du haut de nos bateaux, mais la meilleure façon d'en savoir plus sur eux, c'est que les scientifiques plongent avec eux au plus près et qu'ils les laissent venir à eux, qu'ils interagissent avec eux s'ils en ont envie. Ils ont notamment découvert, en plongeant avec les cachalots, que ceux-ci dorment à plusieurs, comme dans une espèce de dortoir sous l'eau, positionné à la verticale, mais surtout toujours un œil ouvert et une partie du cerveau consciente pour ne pas oublier d'aller respirer de temps en temps.
C'est un peu comme une famille, en fait. Ils dorment ensemble et ils font beaucoup de choses ensemble.
Ouais, c'est une grosse famille. Et malgré le fait que ce sont des animaux sauvages qui n'ont jamais été domestiqués, contrairement aux chats et aux chiens, par exemple, ils sont capables de s'organiser en société matriarcale qui vit en groupe. C'est une organisation sociale où la grand-mère est la femelle dominante au centre du groupe. C'est elle qui transmet les apprentissages à ses descendants. Et ils vivent en clan d'une vingtaine de cachalots. Les clans, ils s'organisent même pour garder les petits cachalots lorsque les mères partent chasser le calmar dans les abysses. Il y a des sortes de nounous, des femelles adultes qui surveillent les enfants pour éviter une attaque de prédateurs comme les orques. Et lorsque les jeunes mâles atteignent l'âge mature et lorsqu'ils sont prêts, ils partent du clan pour les zones plus froides et laissent les femelles entre elles. Et lorsqu'on ne les menace pas et que l'on n'a pas de mauvaises intentions envers eux, le peuple des cachalots est un peuple extrêmement pacifique et c'est ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'en dehors des temps de sommeil et de chasse pour se nourrir, les cachalots passent leur temps à se faire des câlins, des caresses. Ils adorent le contact entre eux, ventre contre ventre, ils adorent jouer entre eux. C'est leur façon de se mettre en contact et de se découvrir.
D'accord, c'est hyper intéressant. En fait, j'ai l'impression qu'on les connaît peu. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur eux et sur leur milieu, finalement.
Oui, et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur les océans et sur nous-mêmes, êtres humains. Car pour eux, ou en étant avec eux, l'essentiel, c'est le bien-être et l'instant présent. Dans cette immensité de l'océan, on découvre vraiment un nouveau rapport au temps. Et François Sarano, il explique ça comme ça. Il dit « Moi, j'ai un langage très complexe, mais eux n'ont pas besoin d'avoir élaboré un tel langage. La complexité d'une caresse, qui dit beaucoup plus que tous les mots, est très importante si le seul objectif de la vie, c'est le bien-être. » Et si les cachalots sont organisés collectivement, ils sont aussi capables d'être des individus à part entière. C'est aussi ce qu'on a découvert en plongeant avec eux. Ils sont capables de se nourrir de leurs propres expériences et des propres rencontres qu'ils font avec d'autres espèces. C'est un animal sauvage et pourtant il peut s'intéresser à autre chose que sa survie. Il peut être curieux, il peut apprendre. Ils ont une capacité à utiliser leur temps libre pour enrichir leur vie par la découverte.
Sont donc des animaux très intelligents, finalement.
Oui, ils sont très intelligents, mais il ne faut surtout pas chercher à comparer leur intelligence à la nôtre ou à celle des primates, par exemple. C'est-à-dire les singes. Ce sont des types d'intelligence différentes, notamment car ils utilisent d'autres sens et d'autres capacités pour voir le monde. François Sarano dit aussi « Il faut accepter que l'autre soit différent, qu'il ait une intelligence différente, qui n'est pas égale mais aussi riche que la nôtre. Nous ne sommes ni supérieurs ni inférieurs, juste différents. »
Et alors, est-ce que ces animaux sont menacés aujourd'hui ?
Oui, malheureusement, comme beaucoup d'animaux aujourd'hui, après avoir longtemps été chassés par les hommes pour récupérer l'huile qu'il y avait dans leur tête, ils sont aujourd'hui menacés par la pollution chimique, c'est-à-dire par les métaux lourds et toxiques que les mamans cachalots avalent et transmettent à leurs enfants lors de l'allaitement, mais aussi par la présence en grand nombre de plastique dans l'océan, et ça on en parle de plus en plus. On retrouve des énormes morceaux de plastique, voire des bâches entières dans leur estomac.
Et c'est là que ça devient dangereux, en fait. C'est là qu'il faut que peut-être nous, on prenne conscience de notre impact sur leur environnement.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces cachalots qui sont en danger, c'est une petite partie de l'iceberg émergé. Elle nous rappelle qu'il faut préserver les animaux sauvages et plus globalement la nature tout entière parce qu'elle regorge de richesses et de choses incroyables et imprévisibles qui nous restent à découvrir. Autant le comportement des animaux que les molécules non soupçonnées qui nous permettraient d'inventer de nouveaux médicaments. On pourrait aussi trouver des solutions pour les énergies renouvelables ou pour des nouvelles technologies dont on pourrait s'inspirer de la nature pour les imaginer. Et l'océan, c'est aussi, ça nous permet aussi de réguler le climat. Donc c'est très important, autant pour eux que pour nous. Et plus encore, les cachalots, ça nous rappelle l'importance de réussir à vivre ensemble, car notre vie humaine n'a de sens que si nous réussissons à vivre tous ensemble et que sur la planète, et pas seulement en cherchant à se nourrir ou à acheter toujours plus.
Waouh. Non, ça, si, si, tu as bien raison, non, mais c'est vrai que la vie des cachalots nous donne à penser là-dessus, ce qui serait quand même plus important que beaucoup de choses sur Terre pour les êtres humains. Est-ce que tu as des conseils de lecture pour nous, Paula ?
Oui, eh bien, écoutez, je vous conseille pour les adultes de lire Le Retour de Moby Dick de l'auteur François Sarano. Il raconte ses récits de rencontres et de découvertes avec un groupe de cachalots qui suit depuis quelques années au large de l'île Maurice. Pour les enfants de 3 à 6 ans, ils ont fait un petit bouquin qui s'appelle Chercher Trouve sur les océans aux éditions du Seuil. Donc là, c'est des images de 5 milieux marins différents avec plein de espèces à découvrir. Et puis une planche notamment consacrée aux animaux menacés ou disparus. Et puis pour les plus grands enfants, je vous conseille évidemment de regarder le C'est pas sorcier destiné aux grands cétacés et c'est disponible sur YouTube.
Super, merci Paula. Théo, tu as voulu nous faire découvrir un peu plus les cétacés et tous les animaux marins, même fantastiques, qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo, les films, les séries TV. Donc tu vas plus nous présenter des animaux spécifiques dans différents médiums. Et tu commences par deux jeux vidéo.
Alors oui Louise, je vais parler des cétacés dans le monde vidéoludique. Je vais vous parler de jeux vidéo et ensuite d'une série et d'un film d'animation. On va commencer du coup par les jeux vidéo. Donc les cétacés ont nourri bien des mythes et histoires qui ont su inspirer à leur tour beaucoup d'œuvres artistiques. Car oui, le jeu vidéo est un art et les deux jeux dont je vais vous présenter en sont une belle preuve. Alors le premier jeu est Dishonored. Je vous explique un peu l'histoire du jeu. Dunwall est une ville fictive d'inspiration victorienne dans un style steampunk qui a développé son commerce et sa technologie sur la pêche de baleines et le raffinage de leur huile. Dans cette ville frappée par une terrible épidémie de peste, le joueur incarne Corvo Atano, le protecteur personnel de l'impératrice Jessamine Caldwin. Celui-ci assiste impuissant à l'assassinat de ces dernières, puis à l'enlèvement de la princesse impériale, Emily Caldwin. Se retrouve désigné bouc émissaire de cet assassinat, qui se relève bien vite est un complot politique. Aidé par un groupe de résistants, Corvo décide de sauver Lady Emily et de se venger de ceux qui lui ont fait du tort, tout en rétablissant la vérité. Alors, quelques définitions s'imposent. Vous n'avez peut-être pas tout compris à ce que j'ai dit. L'inspiration victorienne, on part de l'époque victorienne. C'est souvent ce qu'on évoque au Royaume-Uni par une époque qui a été l'apogée de la révolution industrielle britannique, ainsi que celle plus grande de l'Empire britannique. Et pour ce qui est du monde steampunk, alors c'est un courant artistique dont les intrigues se déroulent dans un 19e siècle, dominé par la première révolution industrielle, du charbon et de la vapeur, qu'on dit steam en anglais. Il s'agit d'une uchronie, c'est-à-dire d'un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement du passé. On part d'un point du passé et on réécrit l'histoire, c'est-à-dire que celle qu'on a aujourd'hui n'existe plus. Donc voilà, mais revenons à nos histoires de cétacés. À travers toute cette histoire de vengeance et de justice, le cétacé est un élément que l'on retrouve à chaque coin du récit de Dishonored. Décrites comme des créatures de beauté et de tristesse, les baleines sont des animaux mystiques associés à la spiritualité. Elles disposent de nombreuses nageoires pectorales, de petits tentacules autour de la gueule et de fanons qui cachent de grandes dents triangulaires. Ouais, c'est un peu, c'est complètement réinventé. Elles sont chassées à la fois pour leur huile, principale source d'énergie de l'Empire, leur chair et leur os qui sont prisés pour leur pouvoir mystique. Voilà, parce que dans le jeu, vous allez voir, il y a tout un côté mystique avec plein de pouvoirs qui sont liés aux os des baleines. Je vous en dis pas plus. Bien que paisibles, elles sont perçues pour la majeure partie de la population comme des créatures agressives et malfaisantes. Donc voilà, dans ce jeu, on y retrouve plein de similitudes avec les légendes et les caractéristiques sur le traitement des cétacés à l'époque du coup au 19e siècle et encore aujourd'hui. Voilà, la peur du monstre des mers, la chasse intensive, le chant si propre à l'animal aussi qu'on retrouve dans le jeu. et tout ce qu'il suscite comme mythe. Il est vu comme un animal majestueux et fantastique pour certains, et d'autres le voient juste comme un produit rentable avant tout. Voilà, c'est un peu comme aujourd'hui finalement. Donc voilà, je vous conseille vivement ce jeu. C'est plutôt un jeu pour les parents, voilà, si vous écoutez, parce que c'est quand même un PEGI 18, ce qui veut dire que c'est normalement interdit au moins de 18 ans. Concrètement, je l'ai fait, je le conseille peut-être plus aux plus de 16 ans. Voilà, c'est vraiment une histoire très belle, un jeu magnifique, une BO incroyable fait par une équipe française en plus. Donc voilà, jeu par Ubisoft, je vous conseille. On va passer sur le deuxième jeu. Ce deuxième jeu, c'est un space opéra, c'est-à-dire que c'est un sous-genre de la science-fiction caractérisé par des histoires d'aventure épique ou dramatique, souvent rimant avec exploration spatiale à grande échelle et guerre intergalactique. Ce jeu, c'est Mass Effect. Alors, très complet, ce jeu, il nous plonge dans les années 2180, où la race humaine est loin d'être l'espèce dominante de la galaxie. En effet, après avoir découvert les ruines d'une ancienne civilisation extraterrestre sur Mars, l'humanité fait de grosses avancées technologiques dans le domaine des voyages spatiaux, notamment en découvrant les relais cosmodésiques. Voilà, c'est des relais qui permettent le voyage instantané entre deux points très éloignés. Après une rencontre explosive avec une race extraterrestre, l'homme est finalement reconnu par le Conseil, qui est un gouvernement multi-espèces, qui œuvre pour la paix et la stabilité galactique. Voilà, alors ça c'est un peu le pitch du jeu. Vous incarnez alors un humain, le commandant Shepard, qui devra œuvrer avec les autres espèces pour contrer l'attaque d'un ennemi puissant, les moissonneurs, qui ont pour but de récolter toutes les espèces et les transformer à leur image. Donc voilà, dans ce jeu qui est un énorme saga de 3 volumes. On est dans le troisième opus de la saga. Et c'est là qu'on retrouve notre similitude au mythe des grands cétacés. En effet, dans un contenu additionnel du jeu, attention, il faudra l'avoir en plus, vous irez à la recherche des Léviathans. Le Léviathan est omniprésent dans les légendes comme un monstre marin et a aussi donné son nom scientifique à une espèce éteinte de cachalot. Dans Mass Effect, les Léviathans sont une ancienne espèce extraterrestre que l'on peut comparer aux cétacés de notre monde, mais à une échelle galactique. C'est une espèce aquatique qui communiquait sur des très grandes distances spatiales grâce à leur champ psychique et dominait la galaxie, car étant les plus intelligents et les plus grands prédateurs de leur époque. Ils ont été chassés pour une raison que je ne vais pas vous dévoiler pour ne pas gâcher l'intrigue, mais vivent aujourd'hui reclus de la société dans le plus grand secret. J'y ai vu un peu une analogie au cachalot, le grand roi des océans aujourd'hui, dans ce jeu. Et c'est vraiment un moment dans l'histoire qui est très impressionnant, parce qu'il explique énormément de choses sur toute l'histoire du jeu. Donc voilà, Mass Effect, c'est un très grand jeu du Space Opera. Je vous le conseille vivement, j'ai pris une énorme claque sur ce jeu. C'est encore une fois un PEGI 18, mais encore une fois, je vous le conseille pour les plus de 16 ans. Il n'y a rien de choquant vraiment dans ce jeu, c'est juste que voilà, il y a peut-être une scène ou deux qu'on pourrait dire, oh là là, mais un peu comme partout dans la vie, j'ai envie de dire, il n'y a vraiment rien de choquant. Et sinon, je vous le conseille en tant que parent de le faire, c'est vraiment un superbe jeu. Enfin, je vais vous faire deux autres recommandations. Là, pour cette fois, c'est vraiment pour les bambins. Il faut y aller. La première, ça sera Star Wars Rebels. Voilà, la série d'animation qui relaie des histoires des rebelles de l'Empire après l'épisode 3. C'est-à-dire lorsque Dark Vador naît des cendres d'un ancien Jedi et que la République est remplacée par une dictature impériale. Voilà, alors pour tous ceux qui connaissent la licence Star Wars, je vous conseille d'y aller. Vous allez dire, c'est un dessin animé, c'est pour les enfants. Oui, peut-être, mais l'histoire est hyper bien. Alors, lors de ses aventures, le héros de l'aventure, Ezra Bridger, alors un jeune Jedi, rencontre plusieurs fois des purgiles. Qu'est-ce que des purgiles ? Cet animal, c'est un mélange de cachalot et de pieuvre. Il est étrangement sensible à la force, le pouvoir des Jedi. Il peut communiquer à travers l'espace et voyage dans l'hyperespace, c'est-à-dire il peut aller d'un monde à un autre à une très grande vitesse. On apprend dans cette série que finalement il serait à l'origine des premiers voyages galactiques dans l'univers de Star Wars. Donc voilà, ce sont des grands animaux qui, encore une fois, parle avec un espèce de chant, tout ça. Donc, c'est encore une fois, on ramène toujours à ce mythe des grands monstres marins. Donc voilà, ça c'était la première recommandation. Et enfin, je vous recommande chaudement un film d'animation sorti en 1984 qui s'appelle Le Secret de Moby Dick en français. Il est souvent plus connu par son nom canadien qui est Samson et Sally. Alors, je vous fais rapidement l'histoire. Samson est un baleineau. Alors, ils disent tout le temps baleineau, mais je l'ai vu, ça ressemble quand même plus à un cachalot. Très intéressé par le mythe de son ancêtre, Moby Dick. Alors que sa mère vient d'être enlevée par des pêcheurs, Samson, accompagné par Sally, part à la recherche de la légendaire baleine qui, selon la légende, reviendra pour sauver l'ensemble des baleines. Je vous en dis pas plus, c'est un film très touchant avec des personnages attachants. On y parle de la pêche à la baleine, de la pollution, des fonds marins et un peu du mythe de l'Atlantide. Ça fait un peu rêver. Et tout ça en 1984, c'est quand même un peu vieux et on parlait déjà de tout ça. Alors il peut faire peur, il peut attrister parce que c'est assez cru finalement. Cependant, il fait prendre conscience de l'impact de l'homme sur la vie des cétacés et ainsi il peut sensibiliser les plus petits. Je l'ai vu quand j'étais plus petit, n'ayez pas peur de le montrer à vos enfants. Je l'ai regardé des vingtaines de fois. Je l'avais en cassette chez ma grand-mère. Avec mon cousin, on n'arrêtait pas. Donc vraiment, il est très touchant, mais c'est un vrai bonheur pour les enfants. Voilà ce que j'avais en recommandation sur les cétacés. Comme quoi, on le retrouve toujours un peu, peu importe que ça soit finalement sur un monde très actuel ou dans un monde complètement imaginé. C'est un mythe, je pense, qui fera toujours parler les artistes de par un peu l'espèce de secret, de choses qu'on ne connaît pas finalement sur eux. Comme tu viens d'expliquer, on connaît très peu de choses sur eux.
Super, merci Théo. Est-ce que tu peux peut-être nous dire sur quelle console on peut jouer à ces deux jeux vidéo ?
Bien sûr, c'est des jeux complètement multiplateformes, c'est-à-dire que vous pouvez jouer sur ordinateur et sur les principales consoles que sont la PlayStation et la Xbox. Je ne suis pas sûr que vous pouvez jouer sur les plateformes Nintendo, par contre.
Voilà. Ok. Peut-être dernière question, puisque vous avez choisi ensemble ce thème des cachalots. Si chacun peut me répondre sur ce que vraiment ça l'intéresse. Pourquoi les cachalots, ce qui vous intéresse dans cet animal particulier, parce qu'on en a, on a bien développé, mais vous y avez un intérêt chacun particulier.
Paula m'en a reparlé, parce qu'elle a voulu vraiment faire de son thème les cachalots. Et donc j'ai un peu relu des articles qu'elle m'a envoyés, et je me suis replongé dedans. Parce que oui, ça fait partie d'un des animaux dont finalement on connaît peu de choses, alors qu'il a été là depuis des milliers d'années. Je pourrais presque dire des millions, mais j'oserais pas. Non, c'est tout ce qui est le mystère autour finalement. J'adore tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est où il y a encore plein de secrets encore aujourd'hui. Et j'avoue que voilà, c'est encore un animal où on connaît presque rien et ça donne envie. Et puis comme on l'a vu, c'est finalement un animal extrêmement intelligent. Donc ça donne encore plus envie de savoir vraiment qui il est et est-il possible, est-ce que ça sera possible un jour d'être en interaction avec ces animaux. C'est ça qui est assez excitant, je dirais.
Alors, pour ma part, il y a plein de choses qui m'intéressent. Pour faire court, il y a ce côté mystérieux des grands océans, parce que c'est vraiment la grande difficulté pour les êtres humains d'aller observer sous les océans. Donc, c'est pour ça qu'il reste encore plein de mystères à découvrir. Et l'océan recouvre une très grande partie de la Terre, donc faut se dire qu'il y a encore beaucoup d'espèces qu'on n'a jamais découvert. Et d'autre part, il y a aussi le fait que tous les cétacés, comme nous les êtres humains, on est des mammifères et du coup on a plein de choses en commun dû à notre évolution commune. Et il y a aussi la troisième chose qui m'intéresse, c'est de se dire que l'intelligence humaine n'est pas la seule intelligence possible sur Terre et que en découvrant le comportement de plein d'animaux, on arrive comme celui des cachalots, on arrive à penser autrement en défaisant tous nos repères et à comprendre des espèces si différentes mais si proches de nous-mêmes.
Ok, super. Bah, en tout cas, merci à tous les deux. Merci Paula et Théo pour cette émission sur les cachalots.
À bientôt.
Salut. À bientôt sur Mercredi.
Mercredi. Mercredi. Mercredi. Mercredi.